Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Thomas Edison dans son tout nouvel atelier-résidence de Menlo Park, où il s'est entouré de tous ses collaborateurs les plus fidèles. Il est jeune, brillant, travailleur et très ambitieux. Seconde partie, le sorcier de Menlo Park. Un mois après son installation dans cette lointaine banlieue de New York, il entend parler d'une invention absolument révolutionnaire. Un certain Alexander Bell aurait déposé le brevet d'un appareil capable de transmettre la voix à distance. Edison s'embrase, il veut cet appareil. Par chance, son chargé d'affaires compte justement sur lui pour reproduire et commercialiser l'engin. Aussitôt, tout Menlo Park se met au travail. Edison veut créer un appareil qui dépassera en tout point celui de Bell, trop précaire à son goût. Bell apprend qu'Edison est en train de le doubler. Il lui intente aussitôt un procès pour plagiat. Rien qui puisse ébranler Edison, habitué à ce genre de procédure. Il est très sûr de lui, il ne plagie pas, il s'inspire. Le téléphone de Bell, tel quel, est inutilisable, alors que le sien est opérationnel, tant pour la qualité du son que pour la fiabilité de la liaison. L'écrivain irlandais George Bernard Shaw écrit:
Bell pâlissait devant les performances du téléphone d'Edison, qui produisait un son digne d'un stentor et diffusait vos conversations les plus intimes dans toute la maison, au lieu de les murmurer avec une touche de discrétion.
Ce dernier quart du XIXe siècle est le théâtre de nombreuses inventions en tout genre. Après le téléphone, c'est le phonographe qui fait son apparition. Le 30 avril 1877, le français Charles Cros émet l'idée d'un système de reproduction de la voix humaine. Edison apprend la nouvelle, il se jette tombeaux ouverts dans un travail acharné, d'où sort, quelques mois plus tard, le premier phonographe. Charles Cros a-t-il été pris de vitesse par Edison, comme le prétend la légende? De nombreux proches de Charles Cros affirment que ce dernier avait déjà exécuté son idée bien avant son rival américain. En tout état de cause, Edison sort une nouvelle fois de cette bataille auréolée de lauriers. Si Edison n'est pas l'inventeur à 100% du phonographe, il l'a en tout cas beaucoup amélioré et a contribué à sa diffusion.
J'ai inventé pas mal d'appareils, mais celui-là, c'est mon bébé. Je suis sûr qu'il deviendra un grand gaillard qui prendra soin de moi quand je serai vieux.
Au fil des ans, Menlo Park concentre toute l'attention des journalistes. Tous les jours, il s'y presse. Il n'est pas un jour sans qu'il ne fasse état dans leurs colonnes des travaux en cours à Menlo Park. Il est vrai qu'en ces années 1870, l'Amérique est par excellence le pays de tous les possibles. C'est une terre d'aventure où tous les espoirs sont permis. C'est aussi le monde de l'extrême où l'on rencontre les personnalités les plus contrastées. Tandis que Buffalo Bill se vante de pouvoir tuer et dépecer 1000 bisons en une demi-journée, les colons conquièrent des contrées nouvelles, Arizona, Nouveau-Mexique, Oklahoma. Les nouvelles techniques de traitement de l'acier permettent la production de nouvelles armes comme la célébrissime Winchester, alors que dans les grandes villes trop souvent ravagées par les incendies, l'acier et le verre commencent à entrer dans la composition des bâtiments, remplaçant le bois décidément trop dangereux. Au milieu de ce maelstrom, de grandes figures émergent. Ce sont souvent des hommes partis de rien et qui, en quelques années, édifient de véritables empires comme Andrew Carnegie, le roi de l'acier, ou Rockefeller qui règne sur les chemins de fer et les pipelines. Thomas Edison est de la même trempe. Il est encore dans sa 30e année quand il commence à se consacrer à un projet qui le hante depuis des années, l'éclairage. Dans un monde où la locomotive est en train de supplanter le cheval, il n'est pas concevable qu'on s'éclaire encore à la bougie. Depuis tout jeune, Edison se passionne pour l'électricité. Comme de coutume, lorsqu'il commence à s'intéresser à une question, il se met au travail avec acharnement. Son objectif ? Rendre l'éclairage au gaz obsolète. L'idée de départ est somme toute très simple. Un fil de coton introduit dans une ampoule de verre dans laquelle on crée un vide d'air grâce à une pompe spéciale. Mais les difficultés techniques sont nombreuses. Comment faire en sorte que la lumière produite par l'électricité dure suffisamment ? Et contre toute attente, ce sont ses recherches sur le téléphone qui vont lui apporter la solution. Dans ses ateliers, on produit chaque jour de grandes quantités de pastilles de carbone nécessaires pour le fonctionnement du transmetteur téléphonique. Pour fabriquer ces pastilles de carbone, on fait brûler de jour comme de nuit des lampes à kérosène qui produisent un carbone appelé noir de lampe, lequel est collecté puis moulé en pastilles.
Un soir qu'il est assis dans son laboratoire à réfléchir à certains des détails inachevés, Edison se met à rouler distraitement un morceau de noir de lampe pressé entre ses doigts jusqu'à le réduire à un fil ténu. En y jetant un coup d'œil par hasard, il songe soudain que cela pourrait donner de bons résultats comme brûleur une fois porté à l'incandescence. Quelques minutes plus tard, l'expérience en est faite, et à la satisfaction de l'inventeur, elle s'avère concluante.
La découverte est phénoménale. Le filament de coton utilisé jusqu'alors durait tout au plus 13 heures. Avec le carbone, cette durée de vie est décuplée. Le 1er janvier 1880, Edison présente son invention au public. C'est l'hystérie. L'année suivante, l'ampoule d'Edison est la star de l'exposition sur l'électricité qui se tient à Paris. L'ampoule électrique obtient un tel succès qu'il faut bien sûr produire davantage d'électricité. Et donc en 1882, Thomas Edison assiste à l'inauguration de la première centrale électrique de New York. Les années passent, les brevets s'accumulent, ils seront plus de 1000. Mais toute invention a son revers. L'électricité qui illumine la paix des foyers va bientôt servir de dernier supplice aux condamnés à mort. La pendaison étant jugée démodée et cruelle, pourquoi ne pas électrocuter le prisonnier et lui éviter ainsi d'inutiles souffrances ? En août 1890, on procède à la première exécution sur la chaise électrique. Malheureusement, la décharge n'est pas suffisante. Le condamné râle encore. On renouvelle le coup de grâce, en vain. Au bout de plusieurs essais, le malheureux expire après plusieurs minutes d'atroce agonie. Mais la science a toujours raison contre l'ignorance. On adoube la chaise électrique, on bannit la corde. La réputation d'Edison est alors à son sommet. Le sorcier de Menlo Park, tel que la presse le surnomme, est le sujet d'articles innombrables où l'on se pose la question de ses relations avec les forces invisibles. Un homme seul ne peut être aussi génial. Il est nécessairement aidé par des agents occultes. Pourtant, il n'a cessé de dire que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Dans le New York Herald, journal à grand tirage, on évoque ses relations avec l'au-delà. On le présente comme étant capable de communiquer avec les morts. Et lorsqu'en guise de poisson d'avril, le New York Daily Graphic annonce qu'Edison a mis au point une machine capable de produire de la nourriture, de l'eau et de la terre, l'information est reprise partout. Et fait dans certains états, dans le plus grand sérieux, la une des journaux. À côté de ces manifestations délirantes, certains sociologues se posent la question de la moralité d'Edison. L'inventeur aux 1000 brevets est aussi l'homme d'affaires aux 1000 procès. On lui reproche d'écraser ses concurrents sans pitié, de piller les inventions de ses pairs, de faire disparaître ses rivaux. Derrière la légende de l'inventeur humaniste, attaché à faire profiter autrui du fruit de ses découvertes, apparaît un homme exclusivement préoccupé par ses intérêts personnels. Lorsqu'il met au point le premier appareil de projection d'images animées, le kinétoscope, ancêtre du cinéma, on lui propose de commercialiser le procédé de construction pour le rendre accessible à tous. Il refuse, expliquant qu'une fois sur le marché, son appareil ne lui apportera plus de bénéfices et qu'il préfère le proposer en nombre limité aux acquéreurs les plus riches. Cette disposition d'esprit fera l'affaire des frères Lumière qui reprendront puis prolongeront la recette d'Edison, mais qui, eux, la mettront à la disponibilité du plus grand nombre. Ces traits de caractère qui jettent une ombre sur la personne d'Edison ne nuisent pas à la réputation de l'inventeur, d'autant qu'il ne cesse de produire. L'électricité est devenue universelle. Après la fondation de la General Electric, il veut tourner la page de l'électricité. Il s'intéresse à présent aux rayons X de Röntgen, à la production du caoutchouc. Il met également au point un projet de moulage de maisons en béton où tout serait coulé d'une seule pièce, des murs au robinet. La presse s'interroge. L'eau qui coule dans l'évier sera-t-elle aussi en béton ? Bon, l'idée est abandonnée, mais Edison a tout de même mis au point un nouveau système. En glissant une armature de fer dans le béton, il améliore sa résistance. Il vient d'inventer le béton armé. En 1904, on fête les 25 ans de l'ampoule à incandescence et les 57 ans d'Edison. Le discours qui accompagne le banquet d'anniversaire est dithyrambique et il célèbre
« Le génie, notre camarade, qui a pris cette petite ampoule de cristal dans ses mains prométhéennes et avec elle a aidé à fournir au monde une nouvelle et éclatante lumière. »
Le 21 octobre 1929, c'est l'apothéose. On a décidé d'organiser une fête grandiose pour les 50 ans de l'ampoule d'Edison, qui est depuis 3 ans membre de l'Académie des sciences. Les 500 personnes les plus célèbres de la planète sont invitées aux festivités. Parmi elles, Marie Curie, Rockefeller et le président des États-Unis lui-même, Herbert Hoover. Les moments les plus marquants du jubilé sont retransmis par radio dans le monde entier. Le coup d'envoi est donné avec un voyage organisé dans le train qui vit les débuts d'Edison sur la ligne Détroit-Porte-Huron. On a racheté train et locomotive d'origine et transporté l'ensemble sur des rails provisoires créés pour la circonstance. On a construit une réplique de l'atelier de Menlo Park et devant l'illustre assistance, Edison, qui aime à se mettre en scène, rejoue les moments les plus marquants de sa jeunesse de vendeur de journaux. Puis vient le clou du spectacle, la mise en scène de la fabrication de la première ampoule à incandescence. Là encore, Edison, impérial, reproduit avec application les gestes qui ont fait de lui le plus génial inventeur de tous les temps, en allumant la mèche de carbone au fond de son ampoule. Les cloches sonnent à la volée dans toutes les villes d'Amérique. On donne le coup d'envoi de feux d'artifice. Durant le dîner, tous ont les yeux tournés vers le vieillard, dont la simple présence suscite le respect et la fascination.
Personne ne disait mot. Tous étaient émus devant le spectacle de ce vieillard plongé dans ses souvenirs.
À quoi pense-t-il en ce jour d'hommage national ? Sans doute encore et toujours à sa prochaine invention. Déjà 10 ans auparavant pour son 73e anniversaire, un article titrait
« Aujourd'hui, Thomas Edison, qui fête ses 73 ans, travaillera toute la journée. »
Mais Edison est épuisé. Sa surdité est à peu près totale. On lui découvre un diabète, puis une maladie des reins. Le 13 octobre 1931, il tombe dans le coma et meurt le 18. Lors de l'hommage national qui lui est rendu le 21 octobre suivant, on éteint l'éclairage des plus grandes villes du pays, ainsi que celui de la Statue de la Liberté. C'est la fin de ce double épisode consacré à l'inventeur Thomas Edison. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt !